C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Bien, mais peut mieux faire. C'est le résumé du rapport annuel que le Haut Conseil français pour le climat vient de publier. Bâtiments, énergie, industrie, transport, agriculture, tous ces secteurs ont été passés au crible. La bonne nouvelle, c'est que les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'économie française baissent. Et c'est une première, mais il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, comme nous l'expliquera la climatologue Corinne Le Quéré dans un instant. Nous pouvons agir chacun à notre échelle. Rina Randrian, arrivée loup, nous expliquera comment elle sensibilise les populations malgaches au changement climatique à partir de leurs ressentis. De son côté, le Sénégalais Abdou Touré ne pensait pas déclencher autant d'enthousiasme quand il a commencé à ramasser les déchets devant chez lui à Dakar en 2019. 3 ans plus tard, le hashtag Quartier Vert Challenge a essaimé dans une quinzaine de pays africains, de la Mauritanie au Comores. Nous vous emmènerons aussi à la découverte du Pernecoptère. C'est le seul vautour migrateur d'Europe qui vit dans les canyons du sud de l'Albanie. Il fait partie des espèces menacées, mais une campagne internationale pour le préserver vient d'être lancée. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Le Haut Conseil pour le climat a été créé en France en 2019. C'est un organisme indépendant chargé de donner des avis et d'émettre des recommandations sur la mise en œuvre des politiques et des mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Il a aussi pour vocation à apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat. Bonjour Corinne Le Quéré.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, professeur de sciences du changement climatique et de la politique à l'université d'East Anglia, directrice du Tyndall Center for Climate Change Research, et vous présidez le Haut Conseil pour le climat qui vient de publier son rapport annuel. Alors, ce qui ressort tout d'abord, c'est que même dans un pays comme la France, qui a pourtant un climat tempéré, eh bien, les impacts du changement climatique s'aggravent.
Oui, absolument. Donc, on voit les impacts s'intensifier bien sûr de par le monde, mais en France, avec les vagues de chaleur, les températures extrêmes, les précipitations extrêmes dans le sud-est en particulier de la France, les impacts sur l'agriculture, le retrait des côtes, on a beaucoup d'impacts du réchauffement climatique sur le territoire, sur l'ensemble du territoire français.
Et les conséquences matérielles et financières sont déjà importantes, hein?
Absolument. Les conséquences, bien sûr, les pluies diluviennes qui entraînent des inondations, les inondations aussi au niveau côtier. On a des conséquences vraiment très importantes en agriculture. Par exemple, l'année dernière, on a eu un gel tardif qui est rendu plus probable par le fait qu'on a des hivers chauds et du coup, les écosystèmes, ils commencent leur saison plus tôt. Et les gels tardifs sont plus dommageables dans le monde de l'agriculture. Donc, on voit déjà des impacts sur la production alimentaire, sur les infrastructures aussi, sur la santé humaine. Donc, on y est là au niveau des impacts climatiques auxquels il faut s'adapter. Mais bien sûr, il faut aussi agir pour limiter le réchauffement le plus possible.
Alors justement, là, c'est la bonne nouvelle de votre rapport quand même, même si on va détailler cela. Tous les grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre responsables du changement climatique connaissent en France désormais une baisse de leurs émissions.
Exactement. Pour la première fois cette année, on note que dans l'ensemble, donc on a 5 grands secteurs émetteurs, les émissions diminuent. Donc il y a 3 secteurs, dont soit celui du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie, qui ont des décroissances en émissions depuis plusieurs années, qui sont structurelles, appuyées par des politiques publiques en France ou en Europe. Et donc il faut encore les accélérer, mais ça avance. On a maintenant, nouveau cette année, les deux autres secteurs, donc le secteur du transport qui est le secteur le plus émetteur et le secteur de l'agriculture, où on commence à voir, en fait, fait, les émissions ont aussi diminué dans ces secteurs. Donc, c'est encore fragile, c'est à consolider, c'est à confirmer sur le long terme, en particulier au niveau du transport, hein, qui est encore influencé par la gestion de la crise de la COVID-19. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle, on voit que les politiques commencent à s'étendre à l'ensemble de l'économie.
Alors, dans le bâtiment, donc, qui est responsable d'environ 19% des émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui marche ? C'est l'isolation des bâtiments, majoritairement ?
Oui, voilà, il y a beaucoup d'actes de rénovation énergétique du bâtiment. Donc, c'est l'innovation des toits, des murs. C'est aussi au niveau de l'efficacité des chaudières à gaz. C'est le retrait des chaudières au fioul. C'est aussi l'installation de plus en plus nombreuse de pompes à chaleur hein, qui retirent effectivement le besoin de se chauffer avec le gaz. Donc, ça, c'est vraiment une approche à multiplier, à démultiplier. Et aussi, de plus en plus, bien qu'on souhaiterait en avoir encore plus, les réseaux de chaleur qui alimentent avec de l'énergie renouvelable le chauffage des bâtiments.
Alors, dans le secteur de l'énergie, qui est un secteur important, évidemment, hein, on sait qu'à l'échelle mondiale, c'est ce qui est responsable de l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. En France, bon, il y a l'énergie nucléaire, mais bon, les centrales nucléaires sont pour beaucoup en maintenance et de plus en plus hein, ces derniers temps. C'est une énergie vieillissante et le contexte de la guerre en Ukraine fait prendre des décisions au gouvernement qui peuvent inquiéter en termes de changement climatique, hein, puisqu'il y a la possibilité peut-être de pouvoir faire fonctionner à nouveau une centrale à charbon l'hiver prochain. Qu'est-ce que vous pensez de ce contexte et est-ce que vous trouvez cela inquiétant?
Oui, donc du coup, au niveau de l'énergie, bien sûr, il y a la crise énergétique et pour y répondre, et aussi la crise en Ukraine et l'approvisionnement de gaz et de pétrole, il faut faire attention aux décisions qui sont prises vraiment en période de crise, qu'elles ne nous amènent pas dans une trajectoire qui émettrait plus. Par ailleurs, on a des opportunités au niveau de la sobriété énergétique, d'encourager la sobriété des infrastructures, en particulier les choix sobres qui pourraient être mieux mobilisés.
Par exemple?
Le gaspillage alimentaire, l'efficacité énergétique des bâtiments, le fait que l'on surdimensionne certaines de nos infrastructures, des bâtiments qui sont chauffés, qui ne sont pas occupés, des voitures qui sont très, très lourdes. Et donc, du coup, d'encourager les choix qui sont plus sobres et d'encourager l'efficacité des infrastructures, de l'utilisation des infrastructures permettrait de réduire aussi notre consommation d'énergie. Maintenant, le secteur énergétique, lui, dans l'ensemble, a un défi assez différent de celui des autres secteurs. Dans les autres secteurs, on doit réduire les émissions. C'est le défi principal. Dans le secteur énergétique, on doit en fait augmenter la capacité de l'électricité pour nourrir l'électrification de l'automobile, l'électrification des industries et des bâtiments. Donc, on a à mettre en place un réseau électrique qui est plus axé dans le court terme sur les énergies renouvelables et qui est renforcé pour justement tenir compte de ces nouvelles énergies qui sont plus distribuées, en prévoyant bien sûr sur le long terme ce que l'on veut faire, les investissements dans le nucléaire, les investissements dans l'hydrogène. Mais ça va payer plus tard. Dans l'immédiat, il faut vraiment mettre le paquet en fait sur les énergies renouvelables.
Alors sur lesquelles en priorité?
Ah là, c'est pas très important lesquels on met en place. Bien sûr, l'énergie éolienne, l'énergie solaire est très, très efficace. En fait, on peut aussi l'installer relativement rapidement. Mais ce qui est important, c'est pour le gouvernement. Le gouvernement doit choisir, mettre en place les financements et relever les obstacles pour qu'on puisse justement déployer l'électricité très, très rapidement à l'horizon 2030 ou plus tard, en fait.
Alors, vous le disiez, le secteur des transports est le premier secteur émetteur en France. Hein, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre. Alors là, les émissions baissent, mais beaucoup trop lentement. Hein, et avec des choix, là aussi, qui sont des choix stratégiques qui sont discutables.
Tout à fait. Il y a aussi des bonnes nouvelles, en fait, au niveau du verdissement des flottes automobiles. En particulier, les véhicules électriques connaissent, là, cette année, en 2021, une accélération du nombre d'immatriculations de véhicules neufs qui sont électriques, 100% électriques. Et donc, ça, c'est bien parce que c'est essentiel, l'électrification du parc automobile en particulier, parce qu'on est très dépendant de la voiture. Maintenant, cette électrification, elle n'est pas suffisante. Déjà, il faut qu'elle soit accompagnée d'un niveau plus rapide de déploiement des infrastructures de recharge et de la qualité des infrastructures de recharge. Mais plus important encore, il faut bien penser la mobilité, en particulier la mobilité du quotidien, pour donner des alternatives, en particulier aux gens qui se déplacent, au transport en commun, le train, le transport partagé, l'autobus. Et du coup, le gouvernement a besoin de penser la mobilité dans son ensemble, de développer des stratégies et de aussi identifier qui est responsable à quel moment dans l'élaboration de ces modes de transport, les responsabilités au niveau national, les responsabilités au niveau régional, au niveau du transport sont très importantes et comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde travaille ensemble pour avoir justement une accélération des choix bas carbone pour les usagers, les ménages et les entreprises.
La recette miracle, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire multiplier les transports, par exemple prendre le train avec son vélo pour s'assurer le dernier kilomètre.
Quand c'est disponible aux usagers, c'est effectivement une façon de se déplacer qui permet en fait d'être complètement bas carbone du début à la fin.
Alors, autre secteur, l'agriculture, là aussi les émissions baissent, mais avec quand même quelques mauvaises nouvelles, parce que les forêts ne vont pas très bien en France, alors que les forêts, ben, ça stocke le carbone, justement, ça pourrait compenser un peu, même si on sait que ce n'est pas la solution idéale, mais une partie des émissions du pays.
Au niveau de l'agriculture, donc c'est un secteur qui commence à voir ses émissions baisser. On a eu, par exemple, les assises du bois et de la forêt cette année. On a aussi des discussions par rapport à l'implémentation de la politique, la PAC, la politique agriculture commune de l'Union européenne en France, qui n'est pas suffisante, en fait, à l'heure actuelle pour répondre aux objectifs de réduction en émissions du secteur qui vont être renforcés encore plus avec les nouveaux objectifs européens. Donc, on a une attente très importante de renforcement des mesures. On a une attente aussi pour les engrais azotés, pour la réduction des engrais azotés, la valorisation des engrais organiques. Et ensuite, on a aussi un besoin d'encourager les pratiques qui stockent le carbone dans les sols. Et comme vous l'avez dit, là, si j'en viens aux forêts, on voit très nettement cette année, on a vu avec un réexamen des données qui a été fait par le ministère, une réduction très abrupte des émissions dans des puits de carbone en région forestière. Il faut régénérer les forêts, il faut planter des arbres, s'occuper de la biodiversité des forêts pour faire en sorte qu'elles soient résilientes au climat qui change et que le stock de carbone dans les forêts et les sols augmente.
Voilà, c'est pour ça qu'on appelle cela des puits de carbone. Alors, vous parliez de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2030 puis 2050. Il faut rappeler ce concept. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle la neutralité carbone?
La neutralité carbone, c'est la réduction des émissions maximum en sachant que les émissions qui ne peuvent pas être amenées complètement à zéro doivent être contrebalancées par une augmentation des puits de carbone, de telle sorte qu'on n'a aucun échange de carbone entre les activités humaines et l'atmosphère. C'est juste quand on va arriver à la neutralité carbone que le climat va se stabiliser, le réchauffement climatique va arrêter de progresser.
Et ça, c'est à l'horizon 2050.
Donc, en France, l'objectif de neutralité carbone est à l'horizon 2050, comme en Europe, comme dans beaucoup, beaucoup de pays. De par le monde, on a des pays qui diffèrent un peu dans leur horizon, mais bien sûr, le plus rapidement possible, on va y arriver au niveau global, le moins de réchauffement, nous verrons collectivement.
Il y a une soixantaine de pays, me semble-t-il, qui se sont engagés sur une stratégie de neutralité carbone d'ici à 2050.
plus de 100 pays se sont engagés vers un objectif de neutralité carbone. Plusieurs à l'horizon 2050, beaucoup de pays entre 2050 et 2070, hein, surtout les pays en voie de développement hein, qui se sont engagés un peu plus tard. Maintenant, le gros problème que l'on voit de par le monde, c'est que beaucoup des actions sont repoussés au-delà de l'horizon 2030, alors que, en fait, ce n'est pas très crédible de repousser les actions au-delà de 2030 en pensant qu'on atteindra, du coup, la neutralité carbone en 2050. Donc, les pays, dans le cadre de l'accord de Paris et de la suite de l'accord de Paris, se sont engagés à revenir cette année dans les discussions internationales de la COP pour renforcer leurs objectifs à court terme en particulier, donc à l'horizon 2030, comme le fait la France, d'ailleurs. Dans le cadre de l'objectif européen.
Alors, le changement climatique, c'est la première question à solidarité obligatoire, c'est-à-dire que tous les pays doivent faire un effort. S'il y a un seul pays qui ne fait pas d'effort, eh bien, ça porte préjudice à tout le monde. Et donc, il faut tenir compte aussi de l'impact de ce que nous consommons en France, mais que nous importons de l'étranger. Et ça représente quand même la moitié de l'impact carbone de la France. C'est énorme.
Absolument. Donc, les émissions importées, hein, donc les émissions des produits que l'on consomme en France, mais qui sont produites à l'étranger, sont la responsabilité, en tout cas au minimum partagée de la France avec ses pays producteurs. Et du coup, quand on raisonne en termes d'empreinte carbone, c'est-à-dire on tient compte de ces émissions importées et on extrait les émissions qui, à l'inverse, sont exportées, donc qu'on produit en France et qui sont consommées dans les autres pays, on se rend compte que les émissions associées par personne, l'empreinte carbone, sont déjà 1,4 fois plus élevées que les émissions dites territoriales, hein, qui sont les émissions qui sont officiellement la responsabilité de la France. Mais aussi, on se rend compte que la moitié de ce que l'on consomme en France, en fait, elles ont leurs émissions associées sont produites à l'étranger.
Et alors, si l'on dézoome un petit peu, comment est-ce que vous jugeriez la France à l'échelle des efforts qui sont faits dans tous les pays du monde ?
Il y a, selon le GIEC, hein, qui vient de publier son rapport, là, il y a au moins 18 pays qui voient leurs émissions de gaz à effet de serre diminuer depuis plus d'une décennie, dont la France. La France fait partie de ces pays, de ce groupe de pays qui agissent. Il y a beaucoup de pays en plus qui agissent, mais qui agissent suffisamment pour faire réduire leurs émissions. Les émissions, la diminution en émissions en France, elle est juste en dessous de 2%. Et il y a des pays qui atteignent déjà les 3-4% par année de réduction en émissions. On pense aux pays scandinaves, au Danemark en particulier, au Royaume-Uni. Et ça, c'est le niveau de réduction que la France doit atteindre, voire surpasser. Et la France, elle peut le faire parce qu'on est déjà en place beaucoup d'éléments. On a une gouvernance là qui est pilotée par le Premier ministre. Et on peut appuyer sur l'accélérateur pour bien aller plus vite dans les secteurs où ça marche et vraiment de faire pénétrer ces actions là dans l'ensemble de la société et de l'économie.
En résumé, pas mal, mais peut mieux faire.
En résumé, oui, on peut dire comme ça.
Merci beaucoup, Corinne Le Quéré.
Merci à vous.
C'est pas du vent sur RFI.
écoutez C'est pas du vent sur RFI. La mobilisation contre le changement climatique passe aussi par la mobilisation dans les pays du Sud, comme à Madagascar. Bonjour Rina Randrianarivelu.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes météorologue de formation, vous avez présenté la météo sur la chaîne nationale malgache pendant de nombreuses années, mais en 2018, vous avez décidé de passer à un autre niveau pour sensibiliser au maximum les populations en créant votre association Mahatsangi. Avec quels objectifs ?
Alors Mahatsang est un mot malgache qui veut dire météo et climat, garant du développement de Madagascar. Et nous regroupons des météorologues, des sociologues, des agronomes, des ingénieurs, enseignants, éducateurs. Bon, en bref, des passionnés pour la protection de l'environnement, pour atteindre la mission de bâtir un pont entre la science du climat et la société.
Et alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour faire cela ? Parce que ce n'est pas simple.
En fait, au sein de Mahatsang, nous avons plusieurs projets, dont un projet de mise en place d'un web TV spécialisé dans la météo et du climat à Madagascar, qu'on aimerait implanter d'ici 2023. Comme stratégie, nous allons fournir des services que je dirais de proximité en se basant sur des communication plus efficace, comme quoi on va intégrer les personnes à la base et aussi promouvoir les recherches du climat et en établissant une corrélation avec la science humaine, la science sociale.
Et alors, au lieu d'arriver dans les universités et les écoles avec une conférence toute faite, vous partez du ressenti des gens. Expliquez-nous cela.
Alors, par exemple, dans notre premier documentaire sur la sensibilisation sur le changement climatique dans la capitale de Madagascar, nous étions allés vers les enfants, les élèves, les étudiants, les habitants de la capitale pour les interviewer, pour recueillir les informations sur leur ressenti. Est-ce que le changement climatique impacte leur vie, leur santé, l'éducation, etc. Et c'est à partir des informations qu'ils nous fournissent que nous allons vers les directions techniques comme la Direction générale de la météorologie à Madagascar pour corréler les informations sur le ressenti avec les informations reçues auprès de la Direction générale de la météo, auprès des secteurs qu'ils ont mentionnés comme la santé, l'éducation, l'agriculture où les impacts sont importants.
Et alors, est-ce que c'est cohérent ?
Oui, c'est tout à fait cohérent. Comme pour Antananarive, par exemple, la capitale de Madagascar, nous avons pu dégager que c'est surtout le secteur de la santé qui est le plus touché, le secteur de l'éducation également, et aussi le secteur de l'agriculture. D'autant plus que chez nous, à Madagascar, il y a la majorité de la population sont des agriculteurs. Et quand on avait interrogé les personnes auprès de la Direction générale de la météorologie et aussi auprès du ministère de la Santé publique et de l'Éducation, ils ont vraiment confirmé la corrélation étroite entre les ressentis de la population et aussi donc les résultats au niveau de la Direction générale de la météorologie.
Mais quand vous parlez des impacts sur la santé ou sur l'éducation, il s'agit de quels impacts ?
Au niveau de la santé, nous avons eu la confirmation du ministère de la Santé des ressentis de la population comme quoi il y a une recrudescence des grippes, des maladies respiratoires et également du paludisme et aussi des maladies diarrhéiques parce que ce sont tous des maladies climato-sensibles.
Et quels sont les impacts sur l'éducation ?
Au niveau de l'éducation, nous avons pu recueillir des informations comme quoi, à cause de la hausse de la température ou bien de la baisse de la température ou la fluctuation des différentes saisons, nous avons constaté que les élèves deviennent de moins en moins efficaces en classe et il y a beaucoup d'absences à cause des différentes maladies que j'avais citées tout à l'heure.
Vous partez de faits concrets, hein, comme les cyclones tropicaux intenses qui ont lieu à Madagascar et qui ont été très meurtriers cette année.
Oui, on peut dire que c'était un événement inédit parce que cette année, durant la saison cyclonique 2021-2022, Madagascar a été impacté par 6 cyclones qui a fait 206 morts, presque 500 000 sinistrés. Mais dans notre façon de communiquer, on voudrait dire à toute la population, aux décideurs, à chacun qu'il y a quelque chose à faire et on peut bâtir une société résiliente qui s'adapte efficacement au changement climatique si et seulement si chaque personne s'implique en fonction de leurs responsabilités respectives.
Merci Rina Randrian-Arielou.
Je vous en prie.
Pour nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Si vous voulez comprendre le monde dans lequel nous vivons, vous écoutez la bonne émission. Comme la plupart des capitales des pays du Sud, la ville de Dakar au Sénégal croît rapidement. Ses millions d'habitants produisent chaque année des milliers de tonnes de déchets, dont la plupart aboutissent à Mbobos, à une trentaine de kilomètres du centre de Dakar. Mais beaucoup restent dans les rues, faute de solutions pour les ramasser. Bonjour Abdou Touré.
Bonjour Anne.
Alors, vous avez lancé justement contre la prolifération de ces déchets un challenge dans votre quartier, le Quartier Vert Challenge. C'était en 2019 que vous l'avez lancé dans votre quartier à Dakar. Comment avez-vous eu cette idée ?
Bon, rebonjour Anne, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous parler. Et c'est un grand plaisir d'être sur C'est pas du vent, une émission que j'adore beaucoup, que j'écoute souvent à Dakar. Donc, le Quartier Vert Challenge est né en 2019 après la deuxième édition du Camp Climat. Le Camp Climat est un événement, je veux dire, national qui devient international maintenant, qui regroupe beaucoup de jeunes de l'Afrique et d'Europe et d'Asie aussi.
C'est organisé par Alternatiba.
Oui, avec Alternatiba, Nebedaï, les scouts du Sénégal, les éclaireurs du Sénégal et tout. Et donc, deuxième édition, nous étions à 350 participants pendant 10 jours sur l'île de Bamboum. Mais à la fin du camp, en retournant à la maison, moi j'étais le chargé de programme et le coordonnateur en même temps. On disait à tous les participants et militants écologistes qui étaient là de s'investir dans leur communauté. De s'investir davantage dans la communauté, parce que c'est important d'être en communauté au Camp Climat, mais aussi de faire beaucoup d'activités et de sensibilisation dans notre communauté. Moi, quand je suis arrivé de retour du camp, je me suis dit, ben Abdou, tu es un coordonnateur, tu es un modèle du camp, et mais qu'est-ce que tu vas faire dans ta communauté? J'observais un peu mon environnement et j'ai vu qu'il y avait énormément de déchets dans la rue, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de fleurs. Je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer? Parce que mes voisins ne géraient pas bien leurs ordures. Il y avait beaucoup de canettes, de toiles, d'imperméables dans la rue, de déchets plastiques. Un beau matin, j'ai pris mes gants, mon balai, j'ai commencé à nettoyer devant chez moi. Et en nettoyant, Mes voisins me demandaient, à leur réveil, le dimanche matin, « Mais Abdou, tu nous demandes de venir t'accompagner, ça nous intéresse. » Je dis, « Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas vous perturber votre dimanche et je préfère vraiment nettoyer seul. » Parce que si chacun nettoie devant sa maison ou bien devant sa porte, ça a du sens. Pas besoin qu'on se regroupe de manière ponctuelle pour le faire, mais c'est un geste qu'on doit faire tous les jours. C'est un geste de tous les jours. La propreté, l'arrosage, la plantation, pour moi, ce sont des gestes de tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, je me suis dit, je le fais dans mon quartier, mais mes voisins voient ce que je fais, mais il y a ma communauté sur les réseaux sociaux. Il faut que ces gens aussi puissent voir ce que je fais. Et automatiquement, j'ai commencé à poser mon téléphone, en filmer en accéléré, en filmer en mode ralenti. Et après, je faisais des montages pour les partager sur Twitter, Instagram, Facebook, ainsi de suite. Et voilà, c'est comme ça que la communauté Quartier Vert Challenge est née. Les gens ont vu la chose, se sont intéressés à cela. Et aujourd'hui, le Quartier Vert Challenge est repris dans 15 pays d'Afrique. Et notamment Côte d'Ivoire, Comores, Niger, un peu partout. Donc, c'est comme ça que c'est parti et nous vivons des aventures extraordinaires aujourd'hui avec beaucoup d'activités.
Et qu'est-ce que vous faites des déchets une fois que vous les avez ramassés?
Des déchets, nous les mettons à disposition de l'unité de ramassage, c'est l'UCG. Et eux, je pense, au début, ils mettaient à Mbobes. Et récemment, nous avons vu qu'ils sont en train de construire des centres de tri qui vont être des centres qui vont recevoir tous les déchets qu'ils récupèrent et les transformer en différents trucs. Maintenant, dans cette chose, comme vous l'avez posé, quand j'ai commencé à faire l'initiative, il y a eu des questions sur les réseaux sociaux. Abdou, comme ta question, comment tu fais tes déchets? Et il y a une autre organisation qui s'appelle Ciprovis, qui m'accompagne parce que aujourd'hui le quartier Vert Challenge se démultiplie aussi dans les écoles. On fait de l'éducation environnementale dans les écoles, nous posons des bacs de recyclage dans les écoles, nous faisons du reboisement, des potagers dans les écoles et dans les quartiers. Et une partie des déchets est transformée en compost. Et moi, j'ai mon micro-jardin sur ma terrasse. On appelle souvent la terrasse Quartier Vert Challenge d'Abdou. Je reçois pas mal de personnalités, de jeunes, des initiatives. Et là-bas, j'ai un laboratoire où je montre aux gens comment faire leur compost, comment utiliser leur compost dans leur jardin, mais au-delà, quand ils ont un surplus aussi, comment utiliser ce compost dans la ruelle pour mettre au pied des arbres et tout. Mais aussi en allant dans l'économie verte. Je dis aux gens, il est possible de vendre votre compost, de vendre du jus de compost, de faire votre micro-jardinage. Ça a du sens parce que nous allons avoir un quartier vert, des toits verts, et nous allons voir des abeilles, des papillons, des insectes qui viennent, de la verdure qui atténue la chaleur à Dakar, parce que vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez déjà survolé Dakar, mais Dakar, c'est des immeubles, c'est du béton. C'est carrément ce qu'on appelle des cimetières de ciment. C'est extraordinaire.
Alors, vous le disiez, votre hashtag Quartier Vert Challenge a essaimé dans 15 pays africains de la Mauritanie aux Comores. Vous formez du coup, soit à Dakar, soit à distance, des jeunes pour qu'ils fassent eux-mêmes leur propre challenge. Ça se passe bien?
Oui, ça se passe bien. Et les jeunes sont vraiment très autonomes. Déjà ce samedi-ci, il y avait un webinaire qui se passait. Et ce sont les jeunes qui s'organisent. Et vous savez, ce que je ne vous ai pas dit, moi je suis à la base, je suis un scout, je suis éclaireur du Sénégal. Je suis consultant humanitaire, formateur scout. Et la communauté scout s'est appropriée aussi. Au-delà des jeunes qui ne sont pas scouts, la communauté scout s'est appropriée ce challenge qui SM un peu partout. Et les jeunes sont vraiment autonomes pour s'organiser. Et il y a, moi, par rapport à ce que je fais à Dakar, je ne dis jamais aux jeunes, je vous impose ce que je fais à Dakar. Ils sont libres, c'est de la démocratie. Et ils observent ce qui se passe dans leur quartier, dans leur communauté. Supposons, en Côte d'Ivoire, les jeunes sont très impliqués dans la gestion des plastiques, des déchets plastiques. En Mauritanie, c'est beaucoup plus de la plantation d'arbres dans les écoles, de l'éducation environnementale. À Zinder, Niger, Idrissou et ses amis sont très intéressés par tout ce qui est clean-up et reboisement. Aux Comores et à Kinshasa, je vois qu'ils sont en train de recycler des pneus, qu'ils font des meubles, qu'ils font des choses. Donc, les jeunes sont vraiment autonomes et libres de voir ce qui se passe dans leur communauté et d'y apporter des solutions. Et aujourd'hui, nous avons des groupes WhatsApp pour différents pays, mais nous avons une grande plateforme WhatsApp qui regroupe tous les ambassadeurs. Et dans ce groupe, nous harmonisons nos activités, nous faisons des webinaires. Ce samedi, nous avons fait un webinaire pour les différents ambassadeurs qui viennent nous parler des initiatives qu'ils sont en train de poser dans leur pays et de quoi ils ont besoin en termes d'accompagnement, de formation, de coaching pour pouvoir bien faire les choses. Je suis à Paris actuellement, je vais rentrer bientôt à la fin de semaine. Quand je serai à Dakar, je vais organiser un webinaire pour les coacher sur comment faire du micro-jardinage. Parce que je suis beaucoup plus spécialiste de micro-jardinage et de plantation.
Merci beaucoup Abdou Touré pour vous contacter. Donc, il suffit d'aller sur Twitter, hashtag Quartier Vert Challenge ou sur Facebook Quartier Vert Challenge et on vous trouve.
Oui, c'est ça. Merci Anne. On nous retrouve facilement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
C'est pas du vent sur RFI, vous le savez, si vous écoutez fidèlement cette émission, la biodiversité disparaît à une vitesse vertigineuse. Symbole royal de la maternité, chez les Égyptiens de l'Antiquité, le pernécoptère est le seul vautour migrateur d'Europe. Mais la vie de l'oiseau d'Isis est en sursis. Il est victime de l'empoisonnement, des carcasses dont il se nourrit, des réseaux électriques et de la destruction de son habitat. Ce beau rapace blanc et noir est l'une des espèces les plus menacées au monde. Cet éboueur naturel a connu une chute dramatique de cet effectif, moins 80% en moins de 30 ans. Désormais, moins de 10 couples survivent dans les montagnes des Balkans albanaises, où l'espèce est suivie de près par la campagne internationale Save the Egyptian Vulture. Pour le protéger, les biologistes s'appuient notamment sur les nombreux bergers de ces montagnes. Un reportage au-dessus des canyons du sud de l'Albanie, signé Louis Seyé.
C'est un couple. Oh. Oh, quelle nouvelle. J'avais vu qu'un. Sont deux.
Il est tout juste 10 heures et il est bien là, à l'heure au rendez-vous. Comme presque chaque matin, un grand oiseau noir et blanc fait son apparition au-dessus des prairies de Nivitsa, un petit village des montagnes du sud de l'Albanie. L'ornithologue Myriane Topi ne perd pas une seconde pour sortir son appareil photo. Surtout que cette fois-ci, ce n'est pas un, mais deux vautours percnoptères qui planent dans le ciel bleu.
Maintenant que je vois que c'est un couple, je suis vraiment contente parce que ça veut dire que le territoire s'est actif. Et le couple, il va donner des juvéniles. La population de la vautour percnoptère, il va être peut-être augmenter. C'est la seule manière, en fait.
Unique vautour migrateur d'Europe, le percnoptère est aussi l'un des oiseaux les plus rares du continent. En France, en Italie et dans bien d'autres pays, ce rapace à tête jaune a failli disparaître. Menacé de disparition au niveau mondial, selon l'IUCN, le vautour percnoptère est particulièrement en sursis dans le sud-est de l'Europe. En 30 ans seulement, ses effectifs ont fondu de près de 80% dans les Balkans.
La population de cette espèce, il a eu une déclin dramatique dans les dernières années. En principal, qui est responsable pour ça, c'est l'empoisonnement accidentel. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de troupeaux. Les gens ici, ils vivent avec le troupeau. Et comme il y a beaucoup de troupeaux, il y a aussi des loups qui viennent ici et ils attaquent le troupeau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le loup il fait une attaque, les bergers ils mettent du poison dans le cadavre d'une chèvre pour que le loup de revenir et de manger.
Dans les Balkans comme en Asie, l'empoisonnement des cadavres dont il se nourrit est une vraie menace pour le percnoptère. Il faut dire que le vautour égyptien apprécie beaucoup les prairies comme celle de Nivitsa et ses grands troupeaux de chèvres et de brebis.
Le percnoptère, il a besoin des zones qu'ils ont ouvertes comme ça, pas de bois, parce que sur le bois, il ne peut pas voir la nourriture. Comme il y a beaucoup de troupeaux, il va avoir aussi des animaux qui se mordent à raison de maladies ou des accidents ou de loups. Et voilà, comme ça, ça veut dire qu'il va avoir plus d'opportunités pour la vautour percnoptère pour avoir de la nourriture.
Pour sauver les derniers percnoptères des Balkans, le programme Une nouvelle vie pour le vautour égyptien a vu le jour. Un projet financé par l'Union européenne et dirigé par l'ONG bulgare pour la protection des oiseaux. En Albanie, les associations cherchent à s'appuyer sur les plus proches voisins des vautours, les bergers comme Mouyo. Né à Nivitsa, Mouyo est chargé d'offrir les cadavres de chèvres ou de brebis à cet oiseau qu'il connaît si bien.
J'amène la nourriture aux vautours percnoptères dans cette station que les ONG ont construite ici. Le vautour percnoptère vient en même temps que le coucou. Et l'arrivée du coucou dans notre région est synonyme de printemps. Quand le coucou arrive, on rassemble le bétail. Alors du coup, dès qu'on aperçoit le vautour percnoptère, on se prépare pour rassembler les troupeaux.
En fait, la vautour percnoptère dans cette région ici, c'est aussi un élément culturel. C'était un oiseau que tout le monde il connaissait, même s'il ne l'avait pas vu, mais il avait entendu le nom. Vautour percnoptère, qui en Albanie c'est Kali i Qyqes, que ça veut dire cheval de coucou.
Le cheval de coucou.
De coucou.
Et alors, pourquoi on l'a appelé comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire, le cheval de coucou?
À l'époque, les gens, ils voyaient tout le temps, à la printemps, la vautour percnoptère qu'ils volaient dans le ciel. Et dans le même temps, il écoutait aussi le coucou qu'il faisait. Coucou, coucou, coucou. Truc comme ça. Et les gens, ils avaient compris que pendant l'hiver, les oiseaux, ils ne restent pas ici. Et pour le vautour percnoptère, comme c'est un grand oiseau, c'était facile pour eux pour imaginer que voilà, le vautour percnoptère, c'est un grand oiseau, il peut faire de grandes distances. Mais pour le coucou, c'était un peu difficile d'imaginer qu'un oiseau petit comme ça, il peut faire de grandes distances comme ça. Et c'est pour ça que les gens ils pensaient que c'est la vautour percnoptère qui porte dans le...
Sur le dos.
Sur le dos, le coucou.
Dans la région, on se rappelle quand les percnoptères étaient bien plus nombreux à planer au-dessus des canyons. Pour établir ces conditions de vie, les biologistes tentent d'en savoir un peu plus sur les habitudes des vautours.
J'ai le plaisir de vous présenter. Ce sont deux jeunes très enthousiastes pour la conservation de vautours percnoptères en Albanie. C'est Lady et Jerry. Tous les deux, ils viennent de l'association PEPENEA. PEPENEA, c'est l'association pour la protection et la préservation de l'environnement naturel en Albanie. Et en fait, on est venu ici pour voir le piège caméra, pour voir si la station supplémentaire est visitée ou pas par la vautour percnoptère.
Alors, des oiseaux ont été photographiés.
Entre le 16 avril et la journée d'hier, deux espèces d'oiseaux ont été photographiées.
Oh, super.
C'est la corneille mantelée, Corvus conix. Encore une corneille, le grand corbeau, en vol et pendant qu'il se nourrit.
Magnifique. C'est un très bon signe, parce qu'au début, le vautour percnoptère ou l'aigle royal ne viennent pas sur ce genre de station. Ce sont deux espèces qui ont besoin de se sentir en sécurité. Et le fait que la corneille ou le grand corbeau viennent se nourrir à la station, ça veut dire qu'on devrait bientôt avoir aussi la visite de l'aigle royal et du percnoptère.
En fait, la dernière fois qu'on était là pour placer les pièges photographiques, on a vu un aigle qui planait au-dessus de nous.
Et l'aigle royal, c'est aussi une espèce menacée dans notre pays. Sa population est en forte régression, donc en fait, comme ça, cette station ne sert pas seulement aux percnoptères, elle sert aussi à l'aigle royal.
Le travail de longue haleine des ONG porte déjà ses fruits. Alors que le vautour n'était pas vraiment une préoccupation des habitants de la région, ceux-ci le perçoivent maintenant comme un atout, une possibilité d'attirer un peu de touristes dans cette région isolée.
Avant, on le regardait comme un oiseau du coin. Maintenant, on le regarde différemment parce que les gens s'y intéressent. Et les touristes qui viennent ici veulent le voir. Et nous, on veut aussi savoir où il est pour pouvoir leur répondre quand ils nous demandent « Avez-vous vu le vautour percnoptère ?»
Réconcilier l'homme et la nature dans ces montagnes albanaises où vie sauvage et humaine sont inséparables, le défi est en passe d'être relevé. Pour Myriane Topi, cet éboueur naturel désert a toujours été un allié précieux de la vie humaine.
Dans les pays pauvres, moi je crois que pour l'homme, ça pouvait être très difficile pour survivre sans ce genre d'oiseau qui aide à nettoyer les maladies en fait.
Ce rôle crucial dans l'écosystème et ses bienfaits pour l'humanité, des peuples anciens l'avaient déjà observé et même honoré. Dans l'Égypte des pharaons, le percnoptère était associé à la puissante déesse Isis. Cet oiseau très présent sur les bords du Nil avait même droit à son hiéroglyphe.
L'oiseau s'était considéré sacré parce que les gens ils voyaient que cet oiseau il tournait la mort sur la vie. Que ça veut dire que le carcasse, l'animal qui s'était mort, s'était mangé par cet oiseau et c'était après transformé dans la vie. Quoi.
De l'Albanie jusqu'au Niger, en passant par la Turquie ou la Jordanie, les biologistes et les bergers s'activent pour éviter la disparition du vautour percnoptère. Mais face à la destruction rapide de son habitat, cette mission a tout l'air d'une course contre la montre.
Si vous aussi vous avez lancé une initiative dans le domaine de la protection de l'environnement et que vous avez envie d'en parler sur l'antenne de RFI, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr ou contactez-nous sur les réseaux sociaux. Merci à François Forcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.